Les passions de Camille avec Camille Chai.
Bonjour à tous, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Vous écoutez Les passions de Camille, une émission aujourd'hui qui va nous rappeler qu'on a tous en nous une capacité d'adaptation qui est incroyable et qui de mieux pour nous en parler que Paul Corquemaz et Jade Champagne-Provost. Et on reçoit notre premier invité, Paul Corquemaz. Bonjour.
Bonjour Camille.
Comment tu vas?
Ça va super bien.
Oui. J'ai envie de te dire que ça me fait plaisir de t'entendre parce que toi et moi, on se connaît depuis plusieurs années. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Et j'ai envie de te remercier d'avoir accepté de faire cette entrevue avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Alors Paul, tu es programmeur, analyste et développeur pour l'Agence de revenus Canada.
Oui.
Depuis combien de temps?
Je suis développeur, dans le fond, depuis novembre dernier, le novembre 2019, et je travaille à l'Agence de revenus du Canada depuis mai 2016.
OK, quand même. Est-ce que c'est un travail que tu savais depuis tout petit que tu voulais faire?
Non, vraiment pas. Quand j'étais jeune, je voulais je voulais travailler dans le domaine de la santé. Et mon cheminement, il a zigzagué un petit peu dans ma vie et j'ai atterri finalement dans une de mes premières passions qui était l'informatique.
L'informatique. Et là, Paul, tu as 30 ans.
Oui.
Tu es d'origine libanaise.
Oui.
Et là, on rentre dans le vif du sujet. Quel est ton handicap?
Mon handicap, c'est que dans le fond, j'ai une malformation congénitale aux mains. J'ai des petites mains et des avant-bras plus courts. C'est ça. Mes doigts, ils sont tout petits. Je ne peux pas les bouger, je ne peux pas les contrôler, mais j'ai une sensation tactile qui est très sensible. C'est environ ça, mon handicap.
Et là, ça te dit donc que tu es né comme ça?
Oui.
Est-ce que tu connais la cause?
Non, c'est ça, c'est vraiment comme ça, ils ont juste arrêté de, ça n'a juste pas poussé, c'est comme ça que je suis arrivé au monde, ils se font un joke, hein. ils ont juste pris un break, puis ils sont jamais sortis de leur break,
Et c'est arrivé comme ça.
Ouais,
puis tes parents, pour eux, évidemment, j'imagine qu'ils n'étaient pas au courant là, que tu allais naître sans tes deux mains.
Non, c'est vraiment quand je suis sorti du ventre de ma mère que vraiment ça... ils ont eu de la surprise. Ça paraissait pas à l'écho.
Okay.
C'était vraiment comme ça. C'est juste sorti même.
Et comment ils l'ont pris, eux?
Ça a été plus difficile pour mon père, qui jusqu'à tout récemment, il avait de la misère encore à l'accepter. Mm. C'était sans être clair et net qu'il l'acceptait pas, mais je pense que ça, pendant longtemps, il se sentait coupable de ça.
Okay.
Ce qui ne devait pas être, ce qui ne devait vraiment pas être le cas.
Toi-même, tu lui en tiens même pas rigueur.
Non, c'est ça. C'est aucunement de sa faute. C'est encore moins la faute de ma mère. C'est vraiment, c'est ça. C'est la nature, des fois, elle peut être spéciale.
Mm-hmm.
Et sinon, ma mère, elle a été optimiste. Et elle m'a vu que j'étais capable de me débrouiller très, très tôt dans ma vie. J'étais capable de fonctionner avec. Mon handicap en prenant les choses, les objets avec mes deux mains.
Mm-hmm.
Puis, c'est ça. C'est comme ça que la vie a fait son cours. Puis, je pense qu'aujourd'hui, je suis une personne très autonome et j'ai pas un handicap. Je suis quand même chanceux dans cette malchance-là. C'est que c'est pas un handicap qui est très limitant dans mon cas.
Oui, alors qu'à première vue, une personne qui te voit pourrait penser tout le contraire. Est-ce qu'une personne, on lui dit, ben non, toi, tu vas vivre ta vie sans tes deux mains, il se dirait non, il se verrait pas vivre comme ça, mais pourtant, toi, c'est ta réalité.
Ben c'est ça, c'est moi j'ai appris à fonctionner de même, un petit peu comme une personne qui naît avec toutes ses membres, elle apprend à fonctionner avec ses membres, elle apprend à fonctionner avec ce qu'elle a. Et dans mon cas, moi j'ai appris à fonctionner avec ce que j'ai. J'ai fait le même cheminement que tout le monde. C'est juste que je vais les faire d'une manière un peu plus, j'aime dire, créative.
Oui, j'imagine bien. Mais d'ailleurs, j'aimerais que, est-ce que je sais pas si tu as des idées de choses que tu fais de façon plus créative ou de façon différente par rapport à d'autres personnes?
Ça va être surtout comment je vais prendre les objets. Ça va être toujours avec mes deux mains ensemble. À un moment donné, je me suis regardé dans une vidéo. Je suis pas genre à me regarder dans une vidéo, mais j'ai vu comment moi je fonctionnais pour. T'sais, à un moment donné, on voit, on fait les mouvements qu'on fait à tous les jours
Oui.
et on fonctionne même. Puis c'est comme ça que ça marche. C'est mon verre et avec mes deux mains ensemble. T'sais. Puis à un moment donné, je me suis vu comme si c'était dans les yeux d'une personne,
Externe.
une personne externe. Je me disais, oh, OK, c'est spécial comment je fais ça. J'avais jamais vu cet angle-là. Puis c'est ça. Je fonctionne de même. Puis ça. J'ai toujours appris à prendre et à manipuler les objets avec mes deux mains ensemble.
Oui, à ta façon. Et par
Exact.
exemple, porter une veste, est-ce que toi, tu es capable de zipper un zip?
Oui. C'est assez difficile à décrire
Oui.
comment je le fais. Mais oui, j'arrive à quand même moi-même à m'attacher mon zip. C'est sûr que je le fais une fois que je l'ai zippé, ben j'essaie de laisser des zippés. Puis il y a certains zips qui sont plus difficiles que d'autres. Donc là c'est là que j'ai appris à juste plier sur mon orgueil et dire, bon, regarde, il faut qu'il demande des fois de l'aide.
Ah.
Faut pas juste. Faut pas hésiter à demander de l'aide. Et ben c'est ça. J'arrive à zipper mes choses. C'est sûr que c'est plus fastidieux et souvent l'empathie des autres vont dire, ah, il va-tu réussir, il va-tu, c'est ça a l'air compliqué, alors, finalement je vais essayer de proposer de l'aide, mais es-tu des fois comme je peux être, je vais essayer de le faire parce qu'en même temps c'est un apprentissage que je fais à chaque fois que je découvre quelque chose de plus, un mouvement que je suis capable de faire, comme admettons casser des œufs.
Oui, wow.
J'ai réussi à casser des œufs avec aucune main puis aucun doigt.
Oui.
Et ça aussi encore, c'est très difficile à décrire.
On s'imagine plein de choses en ce moment, ça fait une belle
C'est ça,
image.
c'est assez spécial comment je peux casser des œufs.
Oui.
Mais l'exercice, comme dans tous les cas, est un petit peu plus fastidieux, mais je réussis toujours à faire la tâche. Sans causer trop de dégâts ou à un
Oui.
moment donné. C'est vraiment de la pratique à un moment donné à l'autre. Je casse pas souvent des œufs.
Non.
J'ai la chance d'avoir d'habiter avec ma conjointe et bon, ça va être plus elle qui va les casser mes œufs, mais tu sais, à un moment donné, si je suis seul, ben je sais que je suis capable de le faire moi-même.
Oui, puis c'est ça l'important, parce que comme tu dis,
Exact.
la finalité, c'est peu importe la façon dont tu le fais, ben c'est de réussir à le faire si t'es tout seul, si ta conjointe n'est pas avec toi à ce moment-là. Puis tu me parlais de oser demander de l'aide. Est-ce que demander de l'aide à la base, c'est une chose, mais en plus, en tant qu'homme, est-ce que c'est, ça demande, tu te parlais de piler sur ton orgueil, est-ce que c'est un peu plus difficile?
Ben, je vais être franc avec ça, c'est. J'ai toujours été une personne, ah, je ne vais jamais demander de l'aide. Je vais demander le moins d'aide possible et ça a toujours été comme ça que j'étais. Mais c'est relativement récemment. Que j'ai appris à demander de l'aide. Parce qu'à un moment donné, je me rends compte qu'il y a des mouvements que je fais que, juste admettons, si je veux couper des légumes pour faire à souper, ben je le sens, mon corps il est brûlé. Je sens que dans la position dans laquelle je fais ça tout seul, je suis brûlé comme si j'avais couru un marathon. Et donc, c'est là que ça devient qu'à un moment donné,
C'est une nécessité.
faut faire la réflexion, je peux pas faire tout ça, tout le temps ces mouvements-là, puis être traqué le lendemain, puis être barré, à un moment donné, je vais vieillir, et ces mouvements-là vont finalement causer plus de tort que de bien.
Oui.
Donc, c'est là que j'ai amorcé la réflexion de faut être capable de demander de l'aide. Puis c'est correct de demander de l'aide. C'est sain de demander de l'aide. Et ça ne veut pas dire qu'on est moins bon qu'on est des moins bons que rien. Ou, faut pas hésiter de justement
aller vers l'autre.
Puis c'est correct, c'est ça. Aller vers l'autre, puis ça, y a des choses que l'autre peut faire pour soi, puis qu'il y a d'autres choses que moi je peux faire pour l'autre.
Effectivement. Mais j'ai l'impression que ce que tu me dis, c'est récemment. C'est tout récent que tu as cette vision-là ou ces réflexions-là. T'es dans le début de la trentaine. Tu vois, c'est avec quand même l'âge, c'est avec l'expérience de vie que notre discours change tranquillement au fil du temps.
Ouais, puis il n'y a pas si longtemps, j'étais « Ah, ouais, je vais faire ça moi-même, puis c'est drôle. » Puis mais c'est ça, avec l'âge, à un moment donné, je me rends compte que j'ai justement besoin de temps en temps de l'aide. Ça ne veut pas dire que je vais tout le temps demander systématiquement. J'ai quand même, j'ai pas changé drastiquement dans ma vie de philosophie, mais j'ai vraiment... De temps en temps, quand il y a des mouvements qui commencent à être vraiment trop, vraiment ça demande beaucoup de créativité de ma part, ben là, c'est là que je vais aller demander de l'aide.
Ben, je trouve que c'est une sage décision et bon, moi-même étant handicapée, toutes les personnes qu'on reçoit à l'émission, j'ai l'impression que c'est un point en commun qu'on développe au fil du temps. Mais c'est quand même, c'est à chacun notre rythme, hein. C'est pas la même chose pour tout le monde.
Exact.
Et en parlant de rythme, on va faire une petite pause, le temps d'écouter une petite chanson et on se retrouve tout de suite après.
Ça qui est génial. Thank you.
C'était la chanson Dreams de The Cranberries, qu'on connaît tous, ou à peu près. En parlant de rêve, Paul Corcamaz, qui est avec nous, est-ce qu'il y a un rêve que tu n'as jamais pu réaliser, ou peut-être qu'il est réalisable, mais quelque chose que tu gardes en toi? Par rapport à ton handicap, tu nous disais que donc, il te manque tes deux mains. Est-ce qu'il y a une chose dans ta vie que tu as toujours rêvé de faire ou tu as eu une certaine attirance, mais que tu n'as jamais pris le temps d'explorer plus que ça?
Très bonne question. Non, pas en tant que tel, un rêve de quelque chose. J'ai pas eu vraiment ça. J'ai toujours eu la chance et la créativité de m'adapter à peu près n'importe quelle situation. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a des fois des situations qui ont des conséquences. Je m'épuise plus et bon. Mais en tant que tel, quelque chose que j'ai pas pu réaliser à cause de mon handicap, non, j'ai pas eu de.
C'est pas de regret tant que ça ou.
Non, vraiment, j'ai aucun regret. J'ai eu la chance de naître avec ça. C'est pas comme si j'étais né avec mes mains et je les ai perdues du jour au lendemain. Et là, mm-hmm. C'est la réadaptation qu'il faut faire. Il y a le deuil.
Oui.
J'ai pas eu ça. Je suis né avec mon handicap. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de ma vie.
Oui.
Ça fait partie de mes expériences. Donc, j'ai toujours réussi à contourner les difficultés en moi-même m'adaptant. C'est sûr qu'il y a des choses que mettons, je vais donner un exemple. Personnellement, j'aime beaucoup faire du kayak.
Mm-hmm.
C'est un sport que j'aime beaucoup, mais que la façon que je vais tenir la pagaie, ça va me brûler à un niveau. Je vais faire à peine un petit tour de kayak.
Ça t'aura demandé tout, mais oui.
Donc, j'ai pensé à un moment donné à un style de pagaie pour pas que j'ai c'est une genre d'adaptation de pagaie,
mm-hmm.
avec le principe dans lequel que j'ai toujours l'exemple d'un fil dans une aiguille, c'est tu rentres le fil dans l'espèce, je pense que c'est dans, t'appelles ça un chat. ben c'est ça, je rentrerai mes moignons dans cette espèce de trou qui est dans la pagaie.
Oui, qui est fixé.
Qui est fixé, puis je pourrais faire un mouvement qui est un peu plus naturel, puis qui va moins me demander d'énergie.
Mm-hmm.
J'ai jamais vraiment eu le temps de réaliser ce projet-là.
Ah.
Parce que d'un, j'habite en condo.
Oui, bon.
J'ai à Montréal en condo, j'ai pas de place pour un kayak, puis l'accès à un lac, ben,
oui.
C'est plus pour un concours de circonstances qui m'empêche de réaliser ce projet-là. Si un jour j'ai une place où j'ai un accès au lac, puis j'ai une place, une maison sur le bord de l'eau,
mm-hmm.
ben là, c'est sûr que ce projet-là, ben, je vais entrer en contact avec des prothésistes, puis je vais dire, bon, ben, go, j'aimerais ça faire ce projet-là. J'ai même fait des croquis de ce projet-là, justement, parce que j'ai une idée de comment je veux que ça fonctionne. J'en ai déjà parlé avec un de mes amis qui, à l'époque, était prothésiste. Puis il aimait l'idée, mais tu sais, souvent, comme ils vont avoir une autre approche, une autre façon de voir les mm-hmm. choses. Fait que, ça demande une bonne discussion.
Et du temps.
Il avait l'air hésitant parce qu'il disait, ah, ben, peut-être ça va aller un petit peu plus de. Tu pourras pas tenir la pagaie de la façon que tu proposes. Mais en même temps, moi, je disais, ben, tu sais, il y avait cet échange-là de. Moi, j'ai un style, je sais comment je vais pouvoir la tenir, puis au pire, je vais m'adapter à cette pagaie-là. Je veux juste avoir un mouvement qui est un peu plus naturel que si, mettons, mm-hmm. je le mets entre mon bras puis mon avant-bras, puis je tiens la pagaie, puis je plie mes bras. Là, ça va être déjà plus efficace que
rien du tout.
Que rien du tout.
Mais oui. Puis tu me parles de créativité parce que oui, ça en demande énormément. Et là, je t'amène sur un autre terrain. Mais parce que tu me dis que tu es en couple, tu vis avec ta conjointe depuis longtemps quand même.
Ma conjointe, Lily, que ça fait 8 ans qu'on est ensemble, ça fait un peu plus qu'un an qu'on est fiancés.
Wow, félicitations!
Merci.
Mais comment ça s'est passé avec elle, si puis tu sens-toi bien à l'aise de dire ce que tu as envie de dire ou pas, mais tu parles de créativité, est-ce que dans ton intimité avec elle, il y a des choses ben justement où tu dois être plus créatif, est-ce que tu te sens limité en côté intime ou sexualité?
Non, non, j'ai eu aucune limitation. Puis, pendant toute ma vie, avec toutes les filles que j'ai fréquentées, ça n'a jamais été tabou. Je suis une personne qui est très ouverte pour justement parler si c'était malaisant. Puis, non, ça n'a jamais été un problème. Puis, j'ai pas un handicap qui va me limiter. En tant que tel, puis même là, je pèse mes mots limités parce que je pense que tout le monde peut être créatif,
Mais oui.
peu importe son handicap, surtout sur ce plan-là. Mais c'est ça, moi, dans mon cas, j'ai pas besoin d'être en tant que tel créatif. Je pense pas que ça a jamais dérangé ma conjointe sur ce plan-là. Ça a jamais. Y a pas eu de malaise.
Puis même l'humour aussi, parce que dès le début, hein, tu me dis tu fais des jokes avec ça, mais l'humour fait partie de toi, puis c'est un atout aussi.
Ouais. Moi, ça a été vraiment l'humour qui a fait en sorte que j'ai accepté mon handicap. Ça, tu sais, je veux pas, ça m'a complexé là, le regard des autres, ça m'a déstabilisé, surtout au primaire.
OK. Oui, le regard des enfants devant sur la différence, c'est quelque chose, hein.
Et c'est assez direct. Il y a des fois qui ont des réactions de peur, il y a des fois y a des réactions d'incompréhension, il y a des taquineries.
Peut-être mal
C'est
placé, quand même
Pardon?
des taquineries qui peuvent parfois être mal placées.
Exact,
Oui.
exact. J'ai été chanceux, j'ai eu de très bons amis qui encore aujourd'hui sont dans mes plus loyaux, dans mes plus vieux amis. Je salue en tant que tel, un de mes amis Antoine, que lui, c'est vrai, il a été une personne qui m'a beaucoup inspiré, qui a toujours été là pour moi, qui ne m'a jamais jugé. Puis ça a été comme une source de stabilité dans toute cette période-là assez intense.
Oui.
Puis tranquillement, plus vers le secondaire, je veux pas. Moi, j'aime ça dire qu'il y a plusieurs cheminements. Il y a accepté son handicap, mais il y a aussi accepté son adolescence, toutes les questions qu'on se pose à l'adolescence.
Oui.
Fait que moi, j'avais ces deux chantiers qui étaient en parallèle,
C'est très bien dit.
qui c'est assez intense. J'ai toujours été bien entouré. Je parlais justement d'Antoine, mais j'ai aussi mes parents qui ont été extraordinaires. Ma mère qui a été d'une écoute incroyable. Mon frère qui m'a jamais traité comme étant différent. Mon père, c'est un petit peu la personne qui, juste dans la pièce, tu vois, puis tu fais un sourire, puis tu rassures tout de suite, puis problème, puis
Pas besoin des mots.
Non, il n'y a pas besoin de mots, il y a juste cet amour inconditionnel, puis il rassure, il détend l'atmosphère. Fait que j'ai vraiment été chanceux. Puis c'est ça, au secondaire, ben là, j'ai commencé à prendre goût, à virer un petit peu le jeu à l'envers. C'est moi-même qui vais en rire de mon handicap. Je sais que c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les personnes comme moi, qui sont nés avec l'handicap ou qui ont eu une amputation à la suite d'un accident ou d'une maladie, qui vont utiliser cette stratégie-là. Chacun va avoir des va des va des hein, va des va déployer
Développer, oui.
développer ses propres façons de faire. Moi, dans mon cas, c'est vraiment c'était l'inverse. J'aime taquiner le monde. Je viens d'une famille de taquins.
Ah, voilà.
Fait que tout de suite, d'entrée de jeu, ben, je m'amuse à voir les réactions des autres
Quand tu les provoques.
quand je les provoque, justement, il y a la fameuse poignée de main, mais moi, j'arrive, je te présente, puis on passe pas par 36 000 chemins.
Oui,
il y en a
non,
un seul direct, tu prends ma main, puis c'est ça. J'aime tacler le monde, j'aime créer les malaises, j'aime en rire, c'est, j'ai accepté mon handicap.
Oui, ça t'appartient.
Ça m'appartient. J'en ris vraiment beaucoup. Puis, tu sais, des fois, j'abuse un petit peu. Il y a des situations où je dis, oh, ben là, moi, j'ai pas de main. Je peux pas faire ça quand je peux faire rentrer mon attache, mais c'est juste, ça me tente juste pas de la faire. Là,
donc, tu le tournes en avantage.
Ben, c'est sûr. C'est sûr. Faut en rire. Puis, oui, au final, je vais la faire, la tâche. Mais au moins, ça casse la glace. Ça,
voilà.
ça marque l'imaginaire du monde que je rencontre. Puis, je pense que c'est ça que j'aime le plus. C'est, j'aime beaucoup rencontrer les gens. J'aime les discussions que ça donne. Je suis une personne très, très sociable.
Oui, puis c'est ça, t'aimes beaucoup tout ce qui touche la psychologie humaine, donc le contact humain, on voit bien que, oui, c'est quelque chose qui te parle énormément.
Exact. Donc, quand tu casses la glace comme ça, d'un coup, puis tout de suite après, je vais en rire, puis ils vont voir que, bon, okay, le gars, il est aucunement complexé. C'est le petit feeling après que, bon, ben regarde, j'ai reviré les taquineries. Maintenant, c'est moi qui taquine les gens, qui va les provoquer, puis je vais même rire des fois des réactions...
des autres.
Ou les questions qu'on me pose habituellement.
Oui. Mais je pense que c'est un beau conseil. Dans ce que tu me racontes, ça peut servir de conseil pour des personnes qui ont peut-être plus un malaise, autant une personne qui a elle-même un handicap ou les personnes externes qu'on peut rencontrer. Mais en tout cas, Paul, merci infiniment de nous avoir raconté toutes ces petites anecdotes puis nous avoir partagé ton quotidien d'un homme qui a plein d'humour, qui n'a pas de main, mais qui a plein d'autres belles qualités. Merci infiniment, Paul.
Ça m'a fait plaisir, Camille. C'est fun de te reparler.
Et restez avec nous parce que tout de suite après la pause, on reçoit Jade Champagne-Provost. À tout de suite.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chaille.
Oui, Camille Chaille encore avec vous pour la prochaine demi-heure et en compagnie de notre deuxième invité, Jade Champagne-Provost. Bonjour, Jade.
Allô, Camille.
Comment tu vas?
Ça va bien, merci.
Oui, merci d'accepter de faire cette entrevue avec nous.
Comment?
Merci de faire cette entrevue avec nous.
Ah, ça me fait plaisir, vraiment.
Et j'ai envie de mettre la table tout de suite et d'expliquer en fait que, parce que là, toi, on te reçoit parce que, évidemment, tu viens nous parler de ton handicap et ça fait partie de l'enjeu de, tu fais une entrevue au téléphone en ce moment et tu portes un implant cochléaire.
Oui, c'est ça, dans le fond, la maladie avec laquelle je vis, dans le fond, juste pour expliquer un petit peu, c'est une maladie génétique. Dans le fond, c'est mes parents, les deux, qui ont le gène défectueux, qui, en symbiose, a fait la maladie qui s'appelle le syndrome de Usher. Le syndrome de Usher, ça inclut, c'est ça, une identité profonde dès la naissance. Puis là, c'est sûr que maintenant, j'entends à l'aide l'implant cochléaire du côté gauche, oreille droite, j'entends absolument rien du tout.
Okay.
Fait que c'est sûr que normalement, on est comme un peu habitué de lire sur les lèvres, tu sais. Fait
oui.
que c'est pour ça qu'au téléphone, la qualité de la voix peut parfois changer ou des fois, on peut entendre un petit peu d'écho ou des choses comme ça. Fait que ça peut arriver que des fois, c'est plus difficile.
Mm-hmm.
Je te dirais que les enjeux pour l'audition, c'est plus ça. Dans des endroits publics, mettons, ça peut être un petit peu plus difficile, mais généralement, ça va quand même assez bien. Le syndrome de Usher, ça inclut, c'est ça, la sourdité, puis aussi la rétinite pigmentaire. Dans le fond, la rétinite pigmentaire, c'est qu'on voit pas sur les côtés.
Mm.
Fait que, mettons, la majorité des gens vont voir à peu près à 180 degrés sur les sur les côtés, puis tout ça.
Oui.
Mais moi, c'est vraiment, comment je t'explique, c'est comme d'une manière plus claire possible, là, c'est vraiment que je vois comme dans un tunnel en avant de moi.
D'accord, qui est très étroit, j'imagine.
Comment?
J'imagine que c'est un tunnel qui est très étroit.
Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, les enjeux plus avec ma vision, c'est par rapport au soir. Parce que, mettons, dans les yeux, on a tous des bâtonnets et des cônes. Les bâtonnets, c'est la vision périphérique.
Okay.
Les cônes, c'est la vision nocturne. Fait que c'est pour ça que moi, c'est plus le soir que c'est plus difficile parce qu'étant donné que j'ai aucune vision en périphérie, puis le soir, ben quand il n'y a plus de soleil, ben c'est ça, c'est vraiment plus là que c'est plus difficile. Mais sinon, dans le jour, ça va vraiment bien. Je suis quand même super autonome là, dans ma vie actuellement.
C'est impressionnant parce que, puis j'imagine quand tu parles de quand il fait plus sombre, ton équilibre doit être mis en jeu aussi un peu, non?
Ben oui, c'est sûr que mon équilibre est plus est en jeu parfois, mais tu sais, je te dirais que c'est quand même spécial parce que j'ai de la difficulté à suivre une ligne droite. Mettons, il y a des gens qui sont capables de marcher sur la chaîne de trottoir, des choses comme ça, mais moi, je suis pas capable. Fait que, tu sais, mettons, les gens qui ne savent pas puis que je me promène pas avec ma canne, ma canne blanche, pour préciser. Fait que c'est sûr que les gens qui ne savent pas puis qui me voient marcher un peu croche le soir, tu sais, j'ai plus l'air d'une personne qui est saoule qu'autre chose. Fait que, tu sais, je pense que c'est important d'en rire plus qu'autre chose, tu sais.
Mais oui, ben l'humour, hein, on en parlait dans l'entrevue juste avant, mais c'est incroyable comme l'humour est quand même important et un humour qui, évidemment, qui est bien placé. Parce que là, tu me dis que oui, les gens peuvent penser que tu peux avoir l'air saoul, mais donc, ça veut dire que tu ne te déplaces pas toujours avec ta canne blanche.
Non, c'est ça. Je me déplace pas toujours avec ma canne blanche parce que je te dirais que je vois quand même assez bien, tu sais, je vois pas parfaitement. Oui, je vois comme dans un tunnel, mais c'est dur à expliquer parce que j'ai tellement été habituée de balayer avec mes yeux puis à me débrouiller comme ça que je m'adapte très facilement. Fait que j'ai pas les moments où est-ce que je vais prendre ma canne, ça va être plus le soir, mais dans le jour là, je te dirais que ben honnêtement, je la prends pas ma canne, tu sais. C'est peut-être pas correct, mais en même temps, c'est ça. T'sais, puis encore là, c'est une question de perception de soi-même, parce que même encore aujourd'hui, j'ai un petit misère à me sentir parfaitement à l'aise pour prendre ma canne.
OK. Par rapport à l'image que tu rends?
Ben le regard des autres qui peuvent poser sur moi, j'ai de la misère avec ça un peu. Puis pourtant, quand que, mettons, je m'en vais dans une place de... public, mettons, je pense au métro ou des places comme ça où est-ce qu'on voit plus de gens en chaise roulante ou avec une canne blanche qui sont exposés à leur handicap. J'ai aucun problème avec ça. Puis, contrairement, je suis totalement en admiration face à ces gens-là. Puis, j'ai juste envie de les aider puis d'aller vers eux puis de leur offrir de mon aide, puis ça me fait plaisir. Je trouve ça touchant, je trouve ça beau, mais j'ai de la misère à accepter que les autres me regardent comme ça, puis pourtant, tu sais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on... Notre perception de soi-même versus la perception des autres envers nous-mêmes est totalement différente.
Oui, ça, c'est vrai. Mais ça, j'imagine, évidemment, tu nous le dis parce que tu sais très bien de quoi tu parles. C'est ton expérience de vie qui fait que tu le vois de cette façon-là.
Si c'est mon expérience de vie que c'est une bonne question, mais je te dirais que mon expérience de vie, c'est pourtant, je me suis pas faite intimider par rapport à ça. J'ai pas... je te dirais que c'est plus une question que je me rends compte que mon acceptation de la réalité avec laquelle je vis est pas encore complète.
Okay.
Pourtant, j'ai pas de misère à dire aux autres que je vois pas bien ou j'entends pas bien, de demander de faire répéter quoi que ce soit de mes idées quand j'en ai besoin. J'ai pas de misère avec ça, mais de me sentir complètement bien avec la réalité que je vis, c'est pas encore gagné, je dirais.
Mais je trouve que c'est avec une belle humilité que tu nous nommes ça, en plus en onde, dans une émission de radio. Je trouve que c'est un bel exemple que tu nous donnes en ce moment.
Ben, je pense que c'est important de dire les vraies choses. Je pense que, tu sais, on voit trop souvent, à mon avis, quand on demande à des gens dans une émission de télé ou peu importe, comment ça va, toi? T'sais, souvent, les gens vont répondre, ah, ben, ça va super bien, tu sais, la vie est belle. Tu sais, on y va toujours en surface, je trouve. Puis,
oui.
Je trouve qu'avec le temps, on devrait encore plus demander aux gens réellement comment ils vont, puis ne pas avoir peur de dire vraiment comment qu'on file avec ça. T'sais. Puis je pense que les gens aiment ça, entendre la vraie réalité des choses, parce qu'ils ne sentent pas pas rapport. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Oui, mais comme tu disais, c'est le regard des autres versus notre propre regard. Si tu t'amènes avec ta propre vérité du moment, ils vont l'accepter, ils n'ont pas le choix.
Mais c'est ça, c'est ça. T'sais. Puis je pense aussi que c'est important de dire que oui, généralement dans ma vie, ça va bien, j'ai une belle humeur. Vraiment, de façon générale, ça va super bien. C'est juste que j'ai pas peur de dire que parfois, ben, il y a des journées qui sont un petit peu plus difficiles, puis c'est correct, t'sais, on vit nos émotions, puis après on se relève, puis on continue, puis on essaie de faire du mieux avec ce qu'on a. Puis je pense que on n'a pas le choix de vivre avec ce qu'on doit vivre, mais on a très certainement le choix de la façon qu'on décide de le voir puis qu'on décide de vivre notre réalité.
C'est tellement beau.
C'est ça qui fait la différence.
Je suis tellement d'accord avec toi, Jade, puis c'est tout ce dont tu nous parles, c'est le fameux masque que tout le monde, hein, je pense qu'on a certainement tous un fameux masque qu'on garde sur nous et qu'on décide de mettre plus souvent ou moins souvent, mais ce fameux masque, comme tu dis, de notre état intérieur et de notre vérité, j'adore que tu dises que ben, c'est normal d'avoir un moment un peu plus difficile ou de se permettre de pleurer, même, tout simplement.
Ben oui, puis tu sais, quand tu parles justement du masque, c'est drôle parce que justement, ben, je me suis rendu compte jusqu'à tout récemment quand même que je me rendais plus compte que je portais mon masque d'une façon naturelle, tu sais, dans le sens que je le mettais tellement souvent que je me rendais plus compte que je l'avais. Puis c'est ça que des fois je me dis c'est pas mauvais de l'enlever, puis c'est des fois c'est douloureux de l'enlever puis de faire face à notre vulnérabilité là-dedans. Puis je pense qu'en quelque part, si tu fonctionnes toujours avec ton masque, il y a des comment je pourrais dire ça? Si tu portes toujours ton masque, que tu fais pas face à ta vulnérabilité, puis que tu fais pas face à tes réels sentiments, tu peux pas faire le processus d'acceptation. Il peut pas être complété, c'est sûr et certain, parce que si t'es pas vrai avec toi-même, ça marchera pas.
Comment on peut être vrai avec les autres, effectivement?
Hein?
C'est ce que tu dis. Comment, si on n'est pas vrai avec nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut l'être avec une autre personne? Il y a une distance à parcourir entre les deux.
Je m'excuse, j'ai vraiment pas compris ta question.
En fait, c'était comme tu disais que le fait de si on n'est pas vrai avec nous-mêmes, c'est plus difficile d'être vrai avec une autre personne en relation.
Ah ben oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Puis en même temps, quand on enlève notre masque, qu'on est fidèle à nous-mêmes, je pense que on a des personnes qui restent dans notre vie parce qu'ils nous connaissent réellement comme on est. Je pense que ça peut-être qu'en en enlevant notre masque et en étant nous-mêmes réellement, on peut peut-être perdre certaines personnes, mais en même temps, c'est bon parce que ça te fait rappeler que les personnes qui décident de rester dans ta vie sont réellement là parce qu'ils en ont envie, puis parce qu'ils t'acceptent réellement comment tu es.
Tout à fait. Et d'ailleurs, je propose qu'on aille écouter une chanson qui, je pense, va te parler. On en reparle tout de suite après.
OK, parfait.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là, il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, oui. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, mais il est là. Le bonheur, il est là, il est là.
C'était Christophe Maé avec sa chanson « Il est où le bonheur ?» Et on est toujours en compagnie de Jade Champagne-Provost. Jade, j'imagine que le bonheur, tu vas le chercher aussi, entre autres, avec ta fille.
J'imagine que...
Que le bonheur, tu vas le chercher avec ta fille.
Oh, tellement, tellement. Ben, ma fille, c'est vraiment un miracle parce que ça faisait longtemps que je voulais avoir des enfants. Puis c'est ça, mon rêve, c'était de pouvoir la concevoir tant et aussi longtemps que je vois encore. Puis c'est tellement extraordinaire. C'est juste le fait de pouvoir la voir, de l'entendre aussi. T'sais, comme je suis vraiment choyée de pouvoir entendre, même si j'entends juste une oreille, mais c'est merveilleux parce que je peux entendre ses rires, juste sa voix tellement douce puis joyeuse, c'est tellement merveilleux. Puis je me rappelle encore la première fois que je l'ai vue marcher. Pour la toute première fois, je suis partie à pleurer tellement c'était beau puis c'était merveilleux, tu sais. Puis en ont vraiment... Puis c'est ça qui est beau parce que je me rends compte que je vois à travers les yeux de ma fille. C'est juste un exemple. À un moment donné, elle avait échappé sa suce. Puis je la cherchais, puis je savais pas où est-ce qu'elle était. Puis après ça, j'ai demandé, Maëva, est où ta suce? Puis tout ça, puis là, elle a pris son doigt, puis elle a pointé où est-ce que sa suce, elle était. Puis, my God, je trouvais ça donc bien merveilleux, parce que je me suis dit, mon Dieu, tu sais, c'est tellement exceptionnel. C'est comment qu'ils sont intelligents. Puis c'est ça, je me suis rendu compte que il y a des choses qu'elle fait intuitivement, que même si j'ai pas besoin de dire que maman, les yeux à maman sont malades, puis qu'elle voit pas nécessairement tout, mais des fois, elle fait des choses que c'est comme, oh, wow, tu sais, puis en ont vraiment, c'est comme, c'est exceptionnel, puis je remercie totalement la vie de l'avoir à mes côtés, puis c'est juste, c'est super.
Et elle a quel âge, Maëva?
Elle a 2 ans et 2 mois.
OK, quand même, elle est toute jeune.
Comment?
Elle est toute jeune.
Ah oh oui, vraiment, elle est toute jeune. Puis en même temps, autant qu'elle est super jeune, autant que ça grandit énormément vite.
Oui.
C'est fou. Des fois, j'ai l'impression que ça fait juste 1 an qu'elle est née. T'sais, c'est vraiment... puis là, elle va à la garderie, puis ça se passe super bien. Puis en même temps, moi, c'est ça, ça me permet aussi de continuer ma vie quotidienne, de pouvoir travailler. Puis là, même si je suis en garde partagée avec son père, ben pendant qu'elle est avec son papa, j'en profite pour travailler puis faire mes choses. Fait comme ça, ben quand je suis avec elle, je suis vraiment complètement avec elle. C'est fait qu'elle a pas l'impact d'une mère qui doit toujours partir travailler puis qui est pas présente pour son enfant. Fait que ça, je trouve ça, je suis vraiment choyée de pouvoir le faire.
Mm-hmm. Et tu dis que tu travailles, tu es massothérapeute.
Oui, c'est ça. Je suis massothérapeute et kinésithérapeute aussi.
Et donc, OK. Et ça, j'imagine, c'est pas par hasard que tu as choisi de faire ce travail-là?
Je te dirais qu'il y a 2 raisons. Dans le fond, la première, c'est que j'ai toujours aimé prendre soin des gens. Ça fait partie de moi. Quand j'étais plus jeune, j'étais toujours en train de jouer dans les cheveux à mon père, toujours en train de prendre soin des autres. Puis ça, j'adorais ça déjà quand j'avais 5 ans à peu près. Puis en grandissant, c'est sûr qu'avec ma vision qui baissait tranquillement, je me suis dit que le métier qui semblait idéal pour moi, c'était la massothérapie. Parce que c'est sûr qu'en masso, oui, dans la vie, c'est de mon côté, j'ai des pertes, dans le sens que je vois pas bien, j'entends pas bien, mais on a aussi des gains. Puis je me suis dit, je vais me servir de mes sens qui sont encore là. Puis je pense que quand on a des pertes, les sens qui nous restent sont encore 1000 fois plus développés.
Mm-hmm.
Puis mon toucher est plus développé, puis ça peut pas faire erreur parce que ça va super bien, puis ma clientèle sont vraiment satisfaits, puis moi j'adore ça. Fait que non, c'est vraiment une belle vocation pour ça.
Puis comme tu disais, ben c'est t'as une longueur d'avance sur un autre massothérapeute parce que ça devient quasiment presque un 6e sens.
Ben oui, effectivement, parce que tu sais, je pense. Je suis convaincue qu'il y en a beaucoup, des massothérapeutes, puis il y en a beaucoup qui sont excellents.
Mm-hmm.
Mais je pense, comme tu dis, que oui, j'ai une certaine longueur d'avance parce que effectivement, mon sens est plus développé, puis je ressens plus les points de tension qui sont faciles à travailler, puis tout ça. Fait qu'on on a un toucher plus fin, c'est comme j'aime dire. Là.
Oui, ben oui. Et puis là, donc, on parle des gains que tu as. Mais si on tourne ça un petit peu plus avec le côté humour dont tu me parlais tout à l'heure, est-ce que tu as une anecdote par rapport au fait que tu me disais que ben, le soir, dans le noir, tu vois peut-être moins bien? Est-ce que tu as une chose à nous raconter?
J'en ai eu plusieurs, mais il y en a une qui m'a vraiment plus marquée que d'autres, c'est que à un moment donné, j'étais partie dans le coin de l'Ontario avec mes parents puis avec un couple d'amis. Puis à un moment donné, je pense que, tu sais, quand il nous arrive des moments cocasses comme ça, que comme je vais vous expliquer, c'est qu'il y a, c'est important de rire de soi-même. Puis je pense que c'est ça qui fait la différence. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, on était parti en motorisé avec un couple d'amis. Puis ce couple d'amis-là, il y avait un chien, un shih tzu. Puis, dans le fond, je ne sais pas si tu connais un petit peu les chiens shih tzu, comment est-ce que c'est?
Oui. Beaucoup de poils.
Fait que, c'est ça. Puis là, à un moment donné, j'étais dans le motorisé. Puis comme j'expliquais plus tôt dans l'entrevue, le soir, c'est là que je vois moins bien. Puis quand il fait plus sombre, c'est ça. Et j'ai toujours aimé les animaux. Puis à un moment donné, c'est ça, on était le soir. Puis il y avait ma mère, il y avait les autres personnes qui étaient dans le motorisé. Et à un moment donné, c'est ça, j'ai pris le chien. Puis je m'en allais donner un bisou.
Oui.
Puis, à un moment donné, c'est ça, j'entends ma mère me dire « Hey, non, Jade, fais pas ça! » Puis là, elle crie, tu sais. Je dis « Mais voyons, maman, je fais juste donner un peu d'amour, tu sais. » Fait que finalement, je me suis rendu compte que j'étais à deux doigts de l'embrasser du mauvais bord. Fait que, c'est ça, j'ai là, puis quand j'ai balayé mes yeux, je me suis rendu compte qu'il y avait sa queue qui... Si vous avez des vêtements.
Oui, pardon, oui, il était très content, lui.
Le pauvre petit chien, c'est. Mais non, c'est ça. Ben, je pense que c'est ça. C'est important d'en rire, puis ça fait du bien. Puis je pense que faut pas se prendre au sérieux trop. Puis non, c'est vraiment drôle.
Oui, c'est un très bel exemple. Mais puis une autre chose que je trouve importante de discuter avec toi, c'est que en 2015. Tu as eu un énorme projet.
Oui.
C'était quoi?
En 2015, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que on a souvent des tests de champ de vision à faire pour voir si notre vision diminue en périphérie ou si est-ce que c'est stable, tout ça. Puis ces tests-là, on doit les faire d'une façon régulière quand même, ou 2-3 ans à peu près. Puis là, cette année-là, je suis allée passer ce test-là, puis j'étais avec mon conjoint à l'époque.
Mm-hmm.
Puis en sortant de l'opération, du test, excuse-moi, ça m'a vraiment chamboulée parce que je me suis rendue compte que ma vision en périphérie avait beaucoup diminué. Puis à ce moment-là, je voulais voyager, je voulais avoir des enfants, je voulais tout faire en même temps, mais j'avais aucune idée où mettre ma priorité. Je savais pas quoi faire avec ça.
Mm-hmm.
Puis, j'étais pas en paix avec ma réalité, avec ce que je devais vivre par rapport à ma vision. Puis, à un moment donné, après le test, je suis sortie sur mon balcon. Puis, je pense que dans la vie, quand tu demandes de l'aide, quand tu demandes d'avoir des réponses, je pense que la vie sait quand même bien te guider.
Oui.
Certaines fois, là, quand tu as comme une petite voix intérieure, des réponses qui te viennent. Puis à un moment donné, c'est ça, j'ai fermé les yeux, puis j'ai demandé à la vie, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire pour réussir à être en paix le plus possible avec ce que je dois vivre, puis où mettre ma priorité, est-ce que je dois voyager, est-ce que je dois avoir une famille, c'est où que je dois être, je sais pas, j'en ai aucune idée, aidez-moi. Puis à un moment donné, c'est ça, j'ai eu ma réponse, c'était faire une marche, une longue marche, puis tu vas trouver tes réponses. Puis tu vas faire face à toi-même, puis tu vas faire une belle rencontre envers toi-même, puis je pense que ça va te faire le bien. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, attends-moi pas, je pars pour 2 semaines, toute seule, puis j'ai besoin de ça. Puis à un moment donné, c'est ça, je suis partie du Vieux-Québec jusqu'en Gaspésie. J'ai marché, c'est ça. Puis normalement, cette marche-là, ça se fait en groupe. Ça se fait en groupe de 3 à 4 personnes à peu près. Puis là, c'était vraiment la première fois qu'il y avait une personne qui faisait cette marche-là de façon totalement autonome.
Mm-hmm.
J'étais toute seule sur la route. Puis ça a été merveilleux parce que j'ai eu plein de réponses que je cherchais. Ça a vraiment donné le résultat que je m'attendais. Puis ça a été, je pense que les personnes qui ont besoin de comprendre des choses, c'est vraiment une bonne façon de faire la rencontre envers soi-même. Puis en même temps, ça a été bon parce que quand j'étais plus jeune, j'étais une personne extrêmement insécure.
Mm-hmm.
Puis j'avais beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Puis cette marche-là, ça m'a appris à faire face à mes peurs. Ça, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été quelqu'un, une fonceuse, une battante, puis je me suis jamais laissée abattre par les défis, par les obstacles de la vie. Je pense que ça l'a juste amélioré le tout.
Ben, je pense. Oui, ben j'en suis persuadée aussi, puis je me dis que c'est un magnifique message que tu passes à nos auditeurs en ce moment. Alors, ben Jade, merci infiniment pour ton magnifique témoignage, autant dans tes forces que tes vulnérabilités.
Ça me fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir invitée.
Ça fait plaisir. Et c'est déjà la fin. Merci. Donc, je remercie aussi toute l'équipe de l'émission. Donc, Mathieu Tessier à la mise en onde, Claire Guérin, notre recherchiste, Jean-Sébastien à l'habillage sonore. Et merci à vous, chers auditeurs. Et si jamais vous voulez réécouter cette émission, je vous invite à aller sur le site canalm.vusezvoix.com ou sur les plateformes de diffusion. Et je vous dis à la semaine prochaine.